France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Vladimir Jankélévitch, le virtuose. Nouvel épisode de cette série, Jankélévitch et la question de l'engagement et de l'action. Vladimir Jankélévitch, après la Deuxième Guerre mondiale, a œuvré pour qu'un amphithéâtre de la Sorbonne soit nommé amphithéâtre Jean Cavaillès. Cavaillès, son condisciple à l'École normale supérieure, né la même année que lui, en 1903, mathématicien et philosophe, avait été nommé peu avant la guerre à l'université de Strasbourg, une université repliée à Clermont-Ferrand et refusant de remonter en Alsace, désormais territoire du Troisième Reich, à l'été 1940. C'est là, à Clermont-Ferrand, que Cavaillès avait intégré le réseau de résistance Libération auprès d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie, de Lucie Bernard, bientôt appelée Lucie Aubrac, et de Georges Zerafa. Cavaillès a pris les armes, accepté des missions dangereuses. Il a été pris, il a été fusillé par les Allemands à Arras le 4 avril 1944. L'histoire de Vladimir Jankélévitch pendant la guerre n'est pas la même. Lui n'a pas combattu avec des armes, mais avec des mots. Il a rédigé des tracts et publié des textes, notamment dans le journal Fraternité, rattaché au Mouvement National contre le Racisme, un réseau qui tentait de cacher des enfants risquant la déportation. Et puis, le vécu de Jankélévitch est aussi celui d'un juif sous le régime de Vichy, le statut des juifs ayant conduit à sa destitution de la fonction publique. Nous allons parler de tout cela ce matin, notamment pour comprendre comment, dans son œuvre de philosophe, Jankélévitch a pensé la nécessité impérieuse de l'action. Quitte à ne pas toujours être sûr de tout, mais le point clé, disait-il, est de sentir quand il y a quelque chose à refuser. Et puis, pour le philosophe et l'enseignant Jankélévitch, après la guerre, il y avait aussi les engagements joyeux, et je dirais même deux décennies après, les engagements joyeux d'une jeunesse dont la vitalité l'émouvait.
Vladimir Jankélévitch déteste la formule « c'était mieux avant ». Pour lui, l'espoir est toujours du côté de la jeunesse.
Je leur dois beaucoup. Et en les écoutant, en discutant avec eux, et quelquefois en sachant me taire, en les laissant parler, parce que beaucoup de choses que je dis viennent d'eux. Enfin, qu'est-ce que vous voulez ? On ne fréquente pas la jeunesse étudiante pendant des années et des années, comme moi, sans avoir une très grande dette qu'on a contractée à leur égard.
Alors, naturellement, quand éclate mai 68, il participe aux manifestations. Son engagement n'est pas strictement politique. C'est avant tout un pari sur l'avenir.
Vous êtes descendu dans la rue et vous avez crié souvent ?
Ah, si, je suis descendu dans la rue, et je vous crois que je suis descendu dans la rue. Et je continuerai à le faire, et je ne le regrette pas d'ailleurs. On souscrit à des engagements parce qu'on est très en colère, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quand on descend dans la rue pour crier, c'est parce qu'on est très en colère.
Vous venez d'entendre un extrait du documentaire « Vladimir Jankélévitch, penser la vie », réalisé cette année par Fabrice Gardel et Mathieu Wechsler et diffusé sur la chaîne parlementaire. On peut d'ailleurs toujours le visionner sur le site de LCP. Bonjour Emmanuel Kessler.
Bonjour Géraldine.
Normalien ayant fait des études de philo, vous êtes devenu journaliste. Vous présidez aujourd'hui la chaîne parlementaire qui a donc diffusé ce film pour le 40e anniversaire de la mort de Jankélévitch. Celui-ci est une figure importante pour vous, tout comme son maître Henri Bergson, sur lequel vous avez publié un ouvrage en 2024 aux éditions Alpha. Bonjour Françoise Schwab.
Bonjour.
Vous êtes historienne, éditrice des œuvres posthumes de Jankélévitch avec lequel vous étiez amie. Les références des textes de lui que vous avez édités sont données sur le site de notre émission. Je citerai la biographie que vous lui avez consacrée. Vladimir Jankélévitch, le charme irrésistible du je ne sais quoi, publié chez Albin Michel en 2023. Et bonjour Pierre-Alban Gutkin-Guinfolo.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes maître de conférence en philosophie à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes l'auteur d'un livre paru aux presses universitaires de France en 2023 intitulé « L'existence à l'œuvre, philosophie de Jankélévitch ». Alors pour commencer cette émission sur Jankélévitch et l'engagement, Jankélévitch et l'action, voici un extrait de son livre de 1931 sur Henri Bergson. Mais là, il s'agit d'un passage ajouté dans la réédition de 1959.
tant la joie. L'agir et le sentir sont paradoxalement en raison directe l'un de l'autre. Ce paradoxe définit toute la sagesse, dont Bergson a dit un jour qu'elle était d'agir en homme de pensée et de penser en homme d'action. À la fois agnostique et drastique, la sagesse, comme la poésie, unit en elle-même le savoir et le faire. Que le philosophe soit donc non pas le spectateur d'un spectacle, mais l'acteur d'un drame, ou mieux l'agent d'une action en train de se faire. L'important n'est pas de promettre qu'on quittera la caverne, ni d'applaudir à ceux qui la quittent, mais de la quitter soi-même et sur le champ. L'important n'est pas de le dire, mais de le faire. C'est que la parole n'est pas seulement un engagement dérisoire et misérablement partiel de la personne, un engagement du petit bout de la langue, ni seulement une forme bâtarde et dégénérée de l'action, une expression elliptique, symbolique et métaphorique. Le langage est avant tout une action sur de l'action, une action avec exposant, une action secondaire et par conséquent ineffective et notionnelle, une action à l'usage de celui que Bergson appelle « homo loquax », l'homme verbeux, prolixe et débile. S'engager n'est point conjuguer le verbe « s'engager » comme les farceurs à la mode qui font des conférences sur l'engagement, ni s'engager à s'engager, comme les écrivains célèbres, mais s'engager pour de bon, par un acte immédiat et primaire, par un acte effectif et drastique. N'écoutez pas ce qu'ils disent, mais regardez ce qu'ils font, dit Bergson bien souvent. Faire comme on dit, et mieux encore, faire sans dire.
C'est un point important déjà pour Bergson, semble-t-il, Emmanuel Kessler, avec cette série d'expressions que Jean Kelevitch reprend dans le texte qu'il lui a consacré, l'ouvrage qu'il lui a consacré. Le plus important est de faire, pas de dire. Emmanuel Kessler, vous qui connaissez les deux auteurs, comment les choses se donnaient-elles pour Bergson d'abord ?
Eh bien, d'abord, il faut noter que c'est quand même un très beau texte qu'on vient de lire, là, qu'on vient d'entendre, magnifiquement lu, avec une langue qui est, je crois, l'illustration de cette philosophie française qu'on a chez Bergson, qu'on a chez Jean Kelevitch, qu'on avait chez Descartes, où le style n'est pas gratuit, mais où le style dit le mouvement et le mouvement de la vie. Oui, effectivement, chez Bergson, et dans une filiation très fidèle à Bergson, Jean Kelevitch reprend cette idée, il y a une unité de l'action, il y a une unité de l'engagement. On n'a pas d'un côté la parole et de l'autre l'agir. C'est pour ça qu'il reprend cette célèbre maxime de Bergson, agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Cette unité, on la retrouve d'ailleurs dans le titre dont est extrait ce texte, qui est, emprunt à Platon, avec l'âme tout entière. C'est-à-dire que l'engagement ne peut pas être artificiel, il doit toujours y avoir à la fois la parole et l'acte, des paroles et des actes, pour reprendre le titre d'une émission de télévision qui était sur la politique. Et précisément, ce qui manque à la politique souvent, c'est la cohérence entre la parole et l'acte. Au fond, je dirais que j'ai le sentiment que pour Bergson dit qu'au fond, la meilleure des raisons d'agir, c'est d'agir sans raison, sans se poser la question, de mettre son être entier au service de l'action. Et Jean Kelevitch, je crois, reprend assez précisément cette idée. Il faut agir avec l'âme tout entière. Où il dit aussi, il reprend le verset du Deutéronome qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton pouvoir ». Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça manque beaucoup à la fois dans la politique et dans la pensée. Vous aurez noté que dans le texte, mais Françoise y reviendra, il y a un petit coup de patte à Sartre qui parlait de l'engagement.
Alors on va y aller, je vais essayer d'intervenir tous les autres.
Mais n'était pas toujours un... Mais un auteur dit, engagé, ouais, en acte. Voilà. Donc c'est ça, Jean Kelevitch, c'est que il ne doit pas y avoir de fossé entre la parole et l'action, sinon l'engagement est faux, il est artificiel. Et ça, c'est quelque chose qui, dans la vie, est finalement assez difficile à tenir, cette cohérence.
Alors, il y a d'autres textes de Jean Kelevitch. En particulier, il a envoyé des textes pour la commémoration de diverses exécutions au Mont-Valérien après la guerre. On a aussi commémoré des gens qui d'ailleurs étaient parfois très opposés à Bergson. Je pense à Georges Politzer qui faisait partie de la direction clandestine du Parti communiste, résistant donc très tôt, par-delà le pacte germano-soviétique de 1939. Georges Pélisser, qui n'aimait pas du tout Bergson, qui trouvait que justement, c'était pas une philosophie assez concrète. Mais finalement, en ce qui concerne Jean Kélévitch, bon, Bergson est mort en 1941. Pour Jean Kélévitch, tous ces gens qui se sont engagés pleinement, c'est une même famille, quelles que soient les dissensions politiques. Et en effet, lors d'un de ses hommages, il dit ceci, Jean Kélévitch, l'engagement est devenu aujourd'hui à l'heure il parle, où Sartre est le grand héros de la jeunesse, notamment, l'engagement est devenu aujourd'hui un sujet de dissertation philosophique, un thème littéraire, on conjugue le verbe s'engager. Il ne supporte pas cela, Pierre Alban, Gutkin, Guinfolo.
Oui, alors il adore le temps, Jean Kélévitch, vous en avez déjà parlé d'ailleurs dans les émissions précédentes, mais effectivement, le fait de simplement verbaliser l'engagement ne suffit pas à Jean Kélévitch. Comme vous le disiez à l'instant, Emmanuel Kessler, la dimension de l'action est inséparable de celle de la parole, et c'est ce qui produit la critique en creux de la promesse qui est produite dans le texte dédié à Henri Bergson. La promesse ne suffit pas. La promesse peut se payer de mots, ça peut être une preuve d'amour, mais contrairement à ce que peut penser le commun des mortels, il n'y a pas de preuve d'amour, parce qu'une preuve peut toujours être duplice, peut toujours être hypocrite. Il faut donc des actes. Et c'est ce qui conduit donc Jean Kélévitch à réinvestir la formule bergsonienne de « n'écoutez pas ce qu'ils disent, mais regardez ce qu'ils font », toutefois dans une perspective un petit peu détournée. Parce que la formule bergsonienne se trouve dans « Les deux sources de la morale et de la religion », ouvrage de 1932 de Bergson, et cette formule en fait a une vocation, on pourrait dire, méthodologique pour Bergson. Il s'agit de comprendre le phénomène religieux, le phénomène religieux statique, et Bergson emprunte des méthodes, notamment ethnologiques, à Charles de Brosse, qui dit il ne faut pas en fait projeter ce que l'on veut voir sur les êtres humains, il ne faut pas projeter un devoir qui leur serait propre, il faut observer les faits, il faut observer leurs actions. Mm-hmm. Et de ce principe, on peut tirer une observation salutaire, neutre, du phénomène religieux socio-historique, on pourrait dire. Bon, mais ce que fait Jean Kélévitch en réinvestissant cette formule, c'est pas du tout un usage, comment dire, méthodologique et anthropologique ou ethnologique. Il s'agit de d'emblée moraliser le propos bergsonien et d'en faire un usage stratégique. Alors, comme vous l'avez indiqué, contre Sartre, bref, contre toute l'autre famille, puisqu'il y a un air de famille, comme vous l'avez indiqué, entre tous les philosophes qui s'engagent pleinement, qui s'engagent véritablement, et ceux qui ne s'engagent que verbalement. Donc, c'est précisément pour critiquer ou pour étrier ceux qui ne sont que dans l'engagement verbal. Donc on pourrait dire que dans ce texte, au fond, Jean Kélévitch travestit un petit peu la pensée bergsonienne à son avantage, stratégiquement, et puis lui donne quasiment un sens plus, si j'ose dire, chrétien, parce qu'on entend un peu la formule de Matthieu, c'est-à-dire la formule du Christ qui dit aux pharisiens, écoutez ce qu'ils disent, mais par contre, ne faites pas ce qu'ils font.
Ça, c'est Bergson.
Et c'est Bergson, et c'est surtout le détournement ou l'intensité émise par Jean Kélévitch délibérément sur cette formule, en ce sens précisément moral, indépendamment de sa mobilisation bergsonienne à titre méthodologique dans les deux sources.
Alors nous reculons pour mieux sauter, nous allons parler de Sartre quand même, et du rapport de Jean Kélévitch à Sartre, François Schwab. Sartre, alors nous avons fait ici, il y a quelques semaines, une émission sur les engagements de Sartre, la figure de Paul Nizan, qui a été communiste avant lui, qui est sorti du Parti communiste en 1939, après qu'il a pris et qui est mort au front. Et Sartre court derrière, il deviendra sympathisant du communisme. Après la guerre, il y a quelque chose. Et puis, il est vrai qu'il s'est engagé dans un mouvement de résistance, mais extrêmement tardivement. Alors, les défenseurs de Sartre n'aiment pas tellement qu'on dise les choses ainsi. Cette émission avait été assez vive. François Schwab, vous, c'est de Jean Kélévitch que vous êtes la spécialiste. Je vous écoute sur le rapport de celui-ci à Sartre.
Écoutez-moi, je voudrais simplement dire un petit mot avant de répondre à votre question. C'est que le premier extrait que l'on a entendu, où Vladimir parle de mai 68, on retrouve dans cet extrait son humilité, sa modestie, sa fougue, sa bonté vis-à-vis des jeunes et des étudiants, et son rôle de professeur entièrement investi dans son enseignement. Alors pour en revenir à Sartre, et je voudrais vraiment que ce soit quand même périphérique, parce que on en a fait beaucoup.
Ah bon?
Sur, oui, je trouve.
Aujourd'hui, vous savez, les gens ne savent pas tout ça.
Non,
il
mais
faut
c'est
quand
sûr,
même
c'est sûr.
Rappeler les
voilà.
choses.
Alors, non, la raison la plus évidente, c'est que Jean Kelevitch, au sortir de la guerre et de cette époque de vie souterraine qu'il a menée pendant 5 ans, s'est retrouvé dans un monde qui ne lui ressemblait pas. Et il a écrit d'ailleurs à ce moment-là un très beau texte sur l'indignation morale, dans la dignité, publié par Sartre dans la revue Les Temps Modernes, pour fustiger le fait que l'on soit passé trop rapidement de la guerre et que l'on est aux lois d'amnistie et que l'on ait oublié les homoncules qui travaillent aujourd'hui à effacer cette période. À cela, il faut ajouter que la résistance, après la guerre, a toujours été à l'horizon de sa pensée. Jean Kelevitch avait été marqué par cette fraternité, cette merveilleuse entente de ceux qui luttaient pour la guerre. Et au fond, ce qu'il reprochait, sans le dire nommément, comme vous l'avez vu, c'est toujours par une périphrase ou c'est par allusion. Il y a des gens qui conjuguent le verbe s'engager à tous les temps, disait-il en riant. On sait très bien à qui il pensait à ce moment-là. Mais lui, ce qu'il avait envie à ce moment-là, c'est de ne pas oublier, de mettre la résistance au cœur de l'actualité, alors que, comme il dit, les docteurs de l'indétermination après-guerre n'avaient qu'une idée en tête, c'est de la passer pour pertes et profits et de passer à autre chose. À cela s'ajoute l'existentialisme et ce mouvement énorme, ensuite le tous les ismes, le structuralisme et tous ces ismes auxquels il était farouchement opposé. Et étant pour lui, il revenait à ce qui était principal dans ce qu'il avait vécu et dans sa pensée, c'est-à-dire le fait de ne pas oublier, le fait de rappeler ce que vous avez fait en parlant de Cavaillès tout à l'heure, il a écrit des très beaux textes que j'avais publiés dans les écrits de résistance de Jean Kelevitch sur Cavaillès, de rappeler donc cette résistance. Ensuite, de faire mémoire. La mémoire historique est une composante de sa pensée. Et par contre, l'oubli est un plan incliné duquel il faut se détacher pour avoir toujours, alors je parle de tout après-guerre, tout de suite l'après-guerre, pour avoir toujours à l'esprit ce qui s'était passé. Et je pense que la douleur de ce qu'il avait vécu aussi, en apprenant ce qui s'était passé après la guerre, a créé en lui une forme de dureté qui, quand il parle de cela, qui n'était pas de son fait. C'était un homme qui n'était absolument jamais, jamais dur. Mais là, cette dureté était proportionnelle à ce qu'il avait vécu. Et dans ce côté comme cela, de se mettre en, comment dire, pour revenir à ce problème-là, il, au fond, lui, est resté dans le temps qu'il avait vécu pour le prolonger et pour qu'il ne soit que le temps des compromissions et le temps de la lâcheté ne soit jamais oublié. Et c'est au fond cela.
Je voudrais juste préciser une chose, c'est que ces philosophes, pour bien se dire, par rapport à aujourd'hui, pour se remettre dans le contexte, ces philosophes, que ce soit Bergson ou Jean Kelevitch, ont été très critiqués par un large courant de la philosophie, parce que ce sont des philosophes de l'intériorité, de la conscience, du temps vécu.
Ils n'étaient plus à la mode.
Et on a dit qu'il n'y avait aucune effectivité, qu'il n'y avait aucune portée politique, aucune portée sociale. Souvenons-nous de la phrase très sévère de Jaurès, qui était le condisciple de Bergson, qui dit le moi de Monsieur Bergson est l'ermite de la liberté. Or, et ensuite, après-guerre, on est prisonnier, comme le dit Françoise, des mohanismes. Ces mohanismes dont Bergson disait qu'ils sèment la zizanie parmi les hommes, qu'ils sont fourbes. Et en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que les philosophies bergsoniennes ou celles de Jean Kelevitch sont des philosophies de la liberté et des philosophies de l'action. Voilà. Et que, au fond, il faut les réhabiliter aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est un philosophe de la conscience qu'on est un philosophe enfermé dans sa tour d'ivoire. Oui. Je dirais même au contraire, compte tenu des dérives provoquées par ceux qui se sont laissés enfermer dans des idéologies. Ce sont des philosophies de la société ouverte, de l'ouverture qui ne se laissent pas enfermer, mais qui ne sont jamais non plus réduites à des théories ou à une intériorité qui n'aurait pas de portée sociale, parce que ce qui compte, c'est l'acte moral qui va être conforme à cette idée de liberté que l'on veut projeter dans le monde.
Et c'est un monde où on remet l'homme au centre.
Exactement.
Et non les pensées totalement abstraites. L'homme est toujours au centre de la vision de Jean Kélévitch. Il n'y a pas une ligne, comme disait Gère Fagnon, où l'on ne voit pas la pensée qui s'adresse à l'homme.
L'homme, la créativité, la liberté.
La créativité et la liberté.
Mais tout ça, il y a également ça chez Sartre, hein, qui n'est pas structuraliste, qui est un existentialiste. C'est vrai qu'il y a un isme, mais il y a beaucoup de choses en commun. Le sentiment de la liberté, la capacité à faire des choix, le refus de se trouver des excuses. Ça, ce sont des thèmes totalement communs à Jean Kélévitch et à Sartre. Il faut quand même être explicite sur la critique. Dans le documentaire que vous avez diffusé, dont nous avons entendu un extrait sur la chaîne que vous présidez, Emmanuel Kessler, on entend clairement la voix de Jean Kélévitch dire « Être au café de Flore et publier, je donne la date, 1942 ou 3, dans les deux cas, c'est pas brillant, surtout si c'est 43. Publié L'être et le néant chez Gallimard, maison d'édition arianisée. Quoi qu'on ait fait dans les derniers mois de la guerre, où il y a eu un peu d'engagement, enfin, pas avec les armes, hein, pour Sartre, mais pour Jean Kélévitch non plus, c'est pas avec les armes. Mais il y a un problème de position, de parler de l'engagement toute la journée, tout en ayant écrit de la philo en 41, 42, 43, tranquillement, à Paris. Je vous écoute sur ce... Il faut quand même dire les choses, si vous voulez, de manière explicite pour ceux qui ne savent pas.
Il faut surtout faire comme on dit. Et ces gens-là ne faisaient pas comme ils disaient. Ils avaient des belles théories, mais ils ne faisaient pas comme ils disaient. Et c'est cela que Jean Kélévitch reproche. Chez lui, il n'y a pas de hiatus entre sa vie et ce qu'il écrit. Et dans ses philosophies ou quelques-uns de ses penseurs, moi je ne stigmatiserai pas Sartre sur ce point, mais chez beaucoup, il y a de belles théories d'un côté et une action tout à fait diverse de l'autre. Et on l'a vu, du point de vue politique, Sartre n'a pas cessé après-guerre de se tromper. Et politiquement, on ne peut pas dire que sa pensée ait été rectiligne et droite. Alors que Van Cassou, par exemple, le beau-frère de Jean Kélévitch ou Jean Kélévitch, qui n'a lui pris aucune position politique, mais toute son œuvre quand même y conduit, ne s'est pas trompé, a vu tout de suite de quel côté la balance, il fallait aller pencher. Et c'est ça, au fond, qui est la grande différence. Puis Jean Kélévitch, c'était le philosophe, il me disait, quand il était petit, il se méfiait il était toujours proche de celui qui n'était pas le héros, mais celui qui est le faible. Il se méfiait des rugissants, comme disait Max Jacob. Il se méfiait de hurler avec les loups et en réaction à cela, il a voulu, je pense, ce n'était pas conscient non plus. Il y a une part d'innocence, il y a une part de sincérité. Parce que s'il n'y a pas de la sincérité et l'innocence dans ce que dit Jean Kélévitch, alors on pourrait le contester. Or lui, c'est vraiment avec l'âme tout entière et avec sa vie tout entière qu'il a prouvé les textes et les choses qu'il a écrites. Et c'est ça, au fond, qui est la grande torsion la différence entre les deux. C'est pas simplement une différence de personne. On pourrait le dire avec n'importe qui d'autre. C'est que lui, d'ailleurs, il disait, un philosophe, c'est celui qui fait comme il dit. Et c'était ça. Et quand il disait ça, il ne le disait pas à son propos, il le disait généralement. Mais c'était bien ça, sa vision de sa philosophie. Et c'est pour ça qu'il a été un philosophe moral et pas un philosophe politique. C'est parce que dans la morale qu'il a développée, il y a non point des injonctions, il n'était pas un frère prêcheur, mais il y a toutes les pistes où l'homme peut, mettre en valeur ses actes en conformité avec sa pensée, en suivant, évidemment, mais ça c'est une autre question, on en parlera peut-être après, l'intuition morale et ces choses-là.
Pierre-Alban Gutkin, Gain Follow.
Oui, je voudrais compléter ce que disait Françoise Schwab à l'instant. On peut être surpris, en fait, de trouver cette critique du langage et de la parole chez Jean Kélévitch, parce que c'est un virtuose des mots. Il écrit beaucoup. Il s'est beaucoup plaint de la diffusion de ses ouvrages, de sa difficulté à être édité, mais il a quand même écrit de nombreux ouvrages, donc il faut bien souligner qu'il a pu s'exprimer. Et donc, de ce point de vue-là, ça n'est pas une dévaluation de la parole ou du langage qui est en jeu dans la formule que nous avons rappelée. Donc, n'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Mais c'est plutôt l'adéquation entre la parole et l'action. Donc, ça, c'est la première remarque. Il faudrait pas tout de suite s'imaginer que la parole n'a pas de valeur dans cette critique de l'engagement sartrien en filigrane. Puis la deuxième chose, c'est, comme vous l'avez souligné, Géraldine Mühlmann, le degré de communauté quand même qui peut exister entre des philosophies comme celle de Jean Kélévitch et celle de Sartre. Bien sûr, on ne peut pas qualifier Jean Kélévitch d'existentialiste, jamais il ne le fera, mais par contre, on peut quand même remarquer un certain nombre d'intérêts communs pour la question d'une existence qui doit toujours se déborder elle-même. Et ça, souvent, c'est un aperçu de la pensée de Jean Kélévitch qui peut apparaître un peu miraculeuse à certains égards, parce qu'elle décrit le miracle d'une action qui est toujours bonne, qui fait ce qu'elle a à faire, qui ne sait pas exactement quels sont ses préceptes, mais qui agit toujours pour l'autre et pour se réaliser soi. Et cette idée, en fait, de toujours passer d'une existence qui serait, on pourrait dire, statique ou végétative à une saillie dans l'action concrète qui fait que le sujet se déborde lui-même et devient un peu plus ce qu'il est, relève en fait d'une distinction qui a clairement été énoncée, je pense une fois pour toutes, par Kierkegaard, entre exister seulement et exister vraiment. Il y a deux modalités de l'existence et Jean Kélévitch comme Sartre en fait sont inspirés par cette tension de l'existant vers lui-même et donc vers l'autre, hein, nécessairement.
Très kierkegaardien, Jean Kélévitch.
Vous venez de dire, Pierre-Alban Gutkin, Gain Follow, qu'on n'est pas tout à fait certain des principes au nom desquels on s'insurge. Vladimir Jean Kélévitch, qui était un virtuose des mots et une espèce d'honnêteté, il y avait chez lui cette honnêteté de reconnaître qu'on est souvent dans l'obscurité, disait cela très très bien. Je vous propose d'écouter ce passage d'une interview sur France Culture du 7 juin 1978.
Pour ce qui est de l'action politique et sociale, j'ai toujours pensé que la pratique sociale est une pratique, c'est-à-dire qu'elle ne détermine pas des lois et ni à plus forte raison des théorèmes, et qu'elle n'isole pas des vérités univoques, valables pour tout le monde, mais que c'est une manière d'agir sur le monde, d'une manière souvent tâtonnante, incertaine, approximative, en faisant au mieux, comme disait Leibniz, on fait au mieux en tenant compte de conditions contradictoires. L'enchevêtrement des intérêts, des passions, des valeurs est tel, dans le monde où nous sommes plongés, dans ce monde de misère, enfin, et de ce monde passionnel, de dissension, que, évidemment, il est très difficile d'établir, d'être le porteur de la vérité et de militer en son nom. C'est pourquoi je dis que, quand on milite, c'est dans des cas extrêmement urgents, très importants, et souvent d'une manière aveugle. C'est dans Bergson également, dans l'Illusion créatrice. On le sait en le faisant. Mais en le faisant, ça ne me dit pas comment il faut le faire. Et généralement, on est incapable de dire comment on fait. C'est comme si vous demandiez à un virtuose comment il fait pour jouer les études transcendantes de Liszt.
Et si on lui dit comment il le fait,
il fait des fausses notes. Alors à ce moment-là, il s'arrête, il a le vertige, et puis il abandonne le piano. C'est comme quand il y a un acrobate qui tient sur un pied. Si vous lui dites comment faites-vous, il tombe dans le vide, n'est-ce pas? Surtout, ne lui parlez pas, ne lui dites rien. Eh bien, l'action quotidienne n'est pas si dangereuse que l'acrobatie, mais c'est quand même une acrobatie entre les thèses contradictoires, entre les criailleries opposées, n'est-ce pas?
Je vous laisse commenter ce très joli moment, je trouve, très honnête. Pierre-Alban Gutkin, Gain Follow.
C'est un moment risqué, c'est un moment effrayant aussi, parce que se dire que la morale n'a pas de préceptes à nous fournir, mais qu'elle est toujours tâtonnante, c'est quand même assez audacieux de le soutenir. Oui. En tout cas, ce que fait Jean Kélévitch, c'est qu'il ne se donne pas de morale a priori, et en ce sens, il est en lutte constante avec l'impératif catégorique kantien. Mais par contre, il remarque qu'il faut un critère pour l'action, afin que celle-ci soit considérée comme bonne. Il faudrait pas se dire, par exemple, qu'il y a une objectivité du courage, parce que le courage peut être parfois spectaculaire, parfois beaucoup moins, et qu'on pourrait hiérarchiser des actes à la mesure, par exemple, d'un précepte qui serait complètement extérieur, qui serait objectivé, qui serait le même pour tout le monde. En fait, il s'agit plutôt d'une lutte du sujet avec lui-même, si je puis dire, non pas une lutte désagréable et presque masochiste, hein, où on chercherait à faire toujours le contraire de ce qu'on a envie de faire parce que le plaisir nous indique une autre voie que celle que nous avons choisie finalement, mais parce que nous pressentons qu'il y a quelque chose comme notre valeur qui est en jeu et notre dignité et celle de l'autre. Et tous les textes en fait de morale de Vladimir Jankélévitch convergent toujours vers cette idée que l'autre a une valeur infinie, que moi j'ai une valeur infinie et que je me rends digne de cette valeur précisément dans l'action morale. Et ça, c'est une découverte qui est fondamentale, puisqu'elle est reprise ensuite sur un plan, je dirais, plus métaphysique, dans Philosophie première, qui est un livre qui succède à la parution du Traité des Vertus. Le Traité des Vertus a été publié en 1949, puis en 1953, alors que Jankélévitch venait d'être nommé à la chaire de philosophie morale de la Sorbonne. Il publie un livre de philosophie métaphysique, ce qui est un peu étrange quand on vient d'obtenir la chaire de philosophie morale, soit dit en passant. Et dans ce livre, il essaye d'éclairer la valeur précisément humaine. Ce qui existe n'existe qu'une seule fois dans le temps, que ce soit moi, que ce soit l'autre, que ce soit les événements. Et cela impose en fait une certaine disposition à l'égard de moi-même et à l'égard de ces choses. Je suis donc toujours dans l'obligation de me comporter de la manière la plus morale qui soit. Et le critère, bon, je peux peut-être vendre la mèche, même si ça ne va pas beaucoup nous aider aujourd'hui, c'est le fait que le cœur y soit.
Alors le cœur, ça c'est intéressant. Vous-même, François Schwab, dans un article de vous que j'ai trouvé extrêmement intéressant, de 2009, dans la revue d'éthique et de théologie morale, un article intitulé « Vladimir Jankélévitch, les paradoxes d'une éthique résistante », vous faites le lien avec Emmanuel Kant, vous écrivez « Tout en n'étant pas particulièrement reconnaissant à Kant de défier la pensée de s'exercer en dehors de tout cadre a priori », Jankélévitch est très kantien, donc moralement kantien,
moralement, tout à fait.
En ce sens qu'il ne dit pas ce qu'il faut faire, mais seulement qu'il faut le faire et que c'est à moi de le faire séance tenante. Cela dit, Kant nous dit aussi ce qu'il faut faire. Il y a impératif catégorique, c'est la raison justement et pas seulement le cœur.
Voilà. C'est... En fait, Jankélévitch n'exclut pas du tout l'impératif catégorique et les raisons de Kant, mais il y ajoute quelque chose. Il y ajoute le fait que sans une intention morale pure, eh bien, l'action qui va en découler risque d'être viciée. Et c'est cela, c'est là où la moralité, pour lui, toute l'exigence morale était quand même la plus importante de toutes. Et c'est à ce point-là où il est différent d'un Kant, c'est parce que il n'y a pas que le fait allez faire aujourd'hui votre devoir, je vous enjoins de le faire. Non, ce n'est pas cela. Pourquoi prend-on tout à coup, en fait, on s'installe d'emblée dans l'acte moral, dans le moment moral. Le moment moral s'inscrit dans le temps, comme disait Pierre Alban, et c'est un instant, c'est dans l'instant. Et cet instant, il est propulsé, il provient de l'homme qui a une intuition morale, une inspiration qui le mène à produire cette bonne action, à être courageux, à être sincère. Et s'il n'y a pas cela, eh bien tout est, si le cœur n'y est pas, tout est vicié. Et quand il écrit son gros traité des vertus, si on pouvait résumer tout le traité des vertus, c'est que toutes ces vertus sont suspendues à l'amour, parce que en conclusion de chaque étude, il explique tout ça, c'est bien beau, mais si il n'y a en plus, comme, et puis il faut ajouter une chose très importante, ne jamais aucune complaisance. Il y a deux choses à ajouter. La première chose, c'est que l'action, le moment moral, comme j'aime bien le dire, ou l'action morale est toujours à refaire. Il n'est jamais fait une fois pour toutes. Toute action est à recommencer dans l'instant. Et il n'y a pas de thésaurisation. On peut pas capitaliser sa vie morale. Chaque chose est à refaire et avec toujours la sincérité qui,
le
au
cœur.
Fond, est le cœur. Et la sincérité.
Et là, oui, mais bon, ça a à voir. Justement, je voudrais vous interroger là-dessus, Emmanuel Kessler. Le cœur plus que la raison, donc ce dialogue subliminal avec Emmanuel Kant et ce que c'est que l'injonction morale pour Kant, qui est plutôt rationnelle. Et comment vous lisez-vous cela, vous qui connaissez Bergson, Jankélévitch, Emmanuel Kessler?
Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui vient d'être souligné, c'est, et qu'on avait dans l'extrait, très bel extrait que vous venez d'indiquer. D'ailleurs, au passage, c'est intéressant parce que l'usage du langage par Jean Kelevitch, je crois que c'est Cynthia Fleury qui, dans votre émission, oui, parlait de l'organe obstacle. Oh, oui, c'est-à-dire que c'est à la fois un outil, ça nous en passe, ça nous catégorise le réel de façon artificielle et en même temps, faut le tordre sur lui-même, comme dirait Bergson, pour arriver à cette poésie qui nous permet de trouver la vérité des choses. Mais ce que je trouve intéressant, c'est cette idée de tâtonnement dans l'action, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr de bien faire, la complexité des situations, et nous le vivons aujourd'hui au quotidien, dans la politique, dans l'état du monde. Et à la fin de notre documentaire sur Jean Kelevitch, il y a quelque chose de très actuel quand il dit que la peine doit pas s'acheter à n'importe quel prix. Enfin, ça fait quand même résonance avec ce que l'on est en train de vivre. Donc, effectivement, il n'y a pas de certitude de la qualité d'action, mais il y a effectivement cette intention, cette conviction que l'on agit entièrement pour faire de son mieux.
Aujourd'hui, ça se donne comment pour vous, cette injonction? Vous qui êtes vraiment fidèle, je crois, alors, dans votre vie personnelle, à ces auteurs que vous aimez.
Non, dans ma vie personnelle, moi, je dirais que on est dans une situation politique, intérieure, dans une situation internationale qui est inquiétante. Nous qui avons vécu dans un monde où on pensait que, malgré toutes les crises, on allait peut-être vers le mieux. Souvenons-nous de cette époque où on parlait des dividendes de la paix. Voilà, ouais. Donc on n'en est plus du tout là. Mais je dirais qu'à mon avis, ce que Jean Kelevitch dirait aujourd'hui, il reprendrait la devise qui est citée dans le très beau livre de François Schwab. Il dirait « Hélas, donc en avant ». Voilà, c'est une devise qu'il écrit, je crois,
exactement,
à son...
Exactement, il écrit « En avant », mais où
en... En avant pour agir, comme dit Bergson, avec
l'horizon.
Notre idée personnelle du bonheur et de l'honneur. C'est-à-dire essayer de faire le mieux possible pour faire triompher les principes auxquels on croit par peut-être des actions qui sont minimales. Et il dirait finalement, avec Raymond Aron, même si les deux ne s'entendaient pas très bien, enfin en tout cas c'est deux personnalités extrêmement différentes. Voilà. En mai 68, ils n'ont pas tout à fait fait le même choix. Mais que la démocratie est peut-être, pour reprendre la formule de Churchill, le plus mauvais des systèmes, à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire qu'il faut, malgré les difficultés du temps...
Mais contre quoi ? Excusez-moi, parce qu'on est dans la question du refus. J'ai abordé cette question avec... Oui. Parce qu'il le souhaitait vivement hier, dans l'émission sur le temps, avec Robert Maggiori et Frédéric Worms. Ouais. Ils ont été explicites sur le fait que aujourd'hui, nous nous sommes enfermés dans une certaine haine de l'étranger. Ils ont dit les choses très clairement.
On revient à la société close, dirait Bergson, qui opposait la société ouverte, celle de l'accueil de l'autre, celle de l'ouverture à l'autre, à la société de clôture, qui est finalement... l'état de guerre, c'est-à-dire l'état où on se constitue en société face à des ennemis qu'il faut combattre. Donc oui, il dirait qu'il faut essayer de continuer à croire à l'ouverture, de prôner l'ouverture et d'agir pour cette ouverture, que c'est la seule façon de s'en sortir à terme. Mais aussi, Bergson disait bien que la paix, c'est une halte entre deux guerres. Bien c'est-à-dire bien que nous sommes dans des périodes de cycle et que probablement la liberté s'achète au prix de beaucoup de sang et de beaucoup de larmes. Donc nous sommes peut-être entrés dans cette période. Mais il ne faut jamais perdre l'horizon de cette ouverture qui est la seule possibilité pour les hommes et pour l'humain de vivre un jour en fraternité. Et donc, je pense aussi qu'il y a... C'est pour ça que le style de Jean Kelevitch est important, parce que derrière ça, il montre que nous sommes capables de créer quelque chose qui est supérieur à ce qui nous oppose et ce qui nous divise. Voilà, la créativité, l'art, la musique, c'est quand même ce qui nous amène vers une communion des esprits et donc la possibilité d'un devenir en commun.
Pour en revenir à la guerre dont tu parlais à l'instant, il y a une très belle lettre de 1939 que Bergson écrit à Jean Kelevitch au moment où celui-ci lui annonce qu'il est mobilisé et qu'il part qu'il est mobilisé. Et Bergson lui écrit « Comme je vous envie de pouvoir servir votre pays, comme je l'ai fait de mon temps, dans des temps auparavant. » Et quand vous reviendrez de cet épisode, je sais pas, il a une phrase assez drôle, il lui dit « Venez donc causer avec moi ». Il finit cette lettre. Et il dit, dans cette lettre, qui est la dernière, « Lorsque j'avais promis, vous avez écrit que je vous promettais un bel avenir, je ne m'étais pas trompé ». Et c'est une lettre un peu testament, qui est absolument magnifique, et où Bergson montre quand même que servir son pays, aller faire la guerre, n'est pas il est pas antinomique, il n'était pas pacifiste parce qu'on l'avait,
on
l'avait
accusé.
Voilà, c'est pour ça que je voulais citer ça parce qu'on a, on avait reproché à Bergson d'être pacifiste. Or cette lettre montre le contraire. Il est fier de son jeune disciple et ami qui part combattre pour la France. Mais pour revenir à tout à l'heure, le problème des mots, c'est que Jean Kilevitch se méfiait des mots énormément. Et d'ailleurs, de temps en temps, il en inventait quand les mots ne convenaient pas tout à fait à son idée philosophique, l'idée dont il se faisait, qu'il voulait exprimer, n'était pas assez adéquat. Et au fond, c'est le même en bas, c'est l'atlas, l'âme et le corps. On a le langage, ça pose le même problème, la difficulté de toujours, c'est pour ça dans son article, dans son livre sur le mensonge, il explique bien la difficulté entre le dire ce que l'on a, entre la parole qui révèle ce que l'on a dans l'esprit, et la façon dont les mots, quelquefois, peuvent être ou sont détournés par celui qui les reçoit. Et
alors, voilà, je pense. Je voudrais quand même vous demander à vous aussi, Pierre Alban, Goutkine-Guinfolo, ce que vous pensez de cette éthique de Jean Kilevitch aujourd'hui. Hier, ils en ont parlé, nos invités, et j'ai pensé qu'il fallait poser la question de ce que... de ce que la gauche, puisqu'il s'est toujours considéré de gauche, Jean Kilevitch devait encore à Jean Kilevitch, ou si elle s'était séparée de certaines choses, la question se pose moins pour la droite, puisque de toute évidence, Jean Kilevitch disait quelle était sa famille. Je sens dans vos réponses que c'est pas le sujet, et j'entends. Le sujet pour lui, c'est pas la gauche et la droite. Est-ce que je me trompe ?
Je dirais que ça n'est pas une question partisane, en fait, la question politique pour Jean Kilevitch. C'est toujours une question morale. Toutes les fois, en fait, où Jean Kilevitch parle de la politique, il a tendance à la renvoyer à ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire le droit qui régit les avoirs, les biens matériels ou les biens immatériels qui sont aliénables ou inaliénables d'un sujet. Et donc, en fait, la politique a cette fonction ou cette charge de conserver avec justice les biens de tous ceux qui les ont relativement bien acquis, en tout cas, selon un état donné du droit. Alors que la morale, elle, s'intéresse non pas à ce qui relève de l'avoir, mais elle s'intéresse à ce qui relève de l'être. Et donc, ce que fait Jean Kilevitch, c'est qu'il a tendance à phagocyter ce qui a été intégré par la politique d'une manière peut-être un petit peu trop cavalière, en rappelant qu'il s'agit d'une exigence morale pour le sujet. Si bien que tous ces engagements politiques sont d'essence morale. Ils sont pas, comment dire, orientés ou déterminés par une appartenance à un parti ou à une idée qui serait préconstruite. Comme on l'a dit, Jean Kilevitch tâtonne. Donc, il choisit ses investissements politiques en fonction donc des exigences qui sont des exigences morales. Et donc, de ce point de vue-là, il est relativement critique à l'égard déjà de la politique en général, de la politique partisane, mais il réinvestit en fait sur le plan moral et bien toutes les données de la problématique, si bien que tout apparaît comme relevant de la responsabilité d'un sujet qui doit se manifester, qui doit parler, qui doit agir pour les autres.
Voilà. Alors, si vous me permettez, parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, Françoise Schwab, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à la question de la résistance, entre guillemets, parce qu'il est vrai que Jean Kilevitch, c'est pas Cavaillès, hein. C'est pas. Ma question est la suivante. Nous avons parlé du lien entre tous les résistants, qui fait que, quelles que soient les appartenances politiques, il y avait un hommage énorme. Il était entouré, Jean Kilevitch, lui qui n'avait rien à voir avec le communisme, il était entouré de gens qui n'avaient rien à voir avec le communisme. Cavaillès s'engage dans un réseau non communiste qui s'appelle Libération. On pourrait parler de son beau-frère, Jean Cassou, qui est d'abord dans les réseaux Pierre Berthaud, proche de Londres. Ils reçoivent des choses qui leur sont parachutées. Musée de d'abord, au fond, c'est pas ça du tout sa famille. Et pourtant, le mouvement national contre le racisme, auquel MNCR, il a appartenu,
MNCR.
Voilà, a été fondé par des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés, FTP Moï,
dont il était proche,
où il y avait énormément de communistes, des juifs, des non-juifs, et j'ajouterais même que le fameux texte très intéressant, Psychoanalyse de l'antisémitisme en 1943, est un texte avec des vrais relents marxistes, où il commence par dire que la classe bourgeoise a utilisé l'antisémitisme, y compris pour ses intérêts. C'est un Jean Kilevitch assez proche de communistes qui est tout à fait inattendu peut-être. On a peut-être insuffisamment dit cela, François Schwab, moments où la question des principes se pose à lui.
Oui, je vais vous répondre, mais la seule chose que je voudrais dire, c'est faire une incise, c'est que le mot tâtonnement me choque un tout petit peu, parce que c'est quand même une pensée très très rigoureuse, celle de Jean Kelevitch. Sous la virtuosité des mots, et c'est ce qui cachait le je ne sais quoi, tout ça, on a l'impression que c'est une pensée un petit peu comme ça, floue. Or, ses raisonnements, sa réflexion est toujours très très rigoureuse. Alors c'est vrai que l'homme est dans les contradictions humaines et qu'il faut s'en sortir, et que l'homme n'a pas toujours une visée juste de ce qu'il faut faire. Il procède par approximation, par moment. Mais Zankelevitch insiste quand même toujours sur les bonnes raisons qu'il y a de faire. C'est une pensée quand même très rigoureuse. Et dans les 200 pages, dans le traité des vertus, où il développe des raisonnements sur la justice, on voit à quel point sa pensée est rigoureuse. Je vous engage à relire ces 200 pages. Là, on découvre aussi un autre Zankelevitch. Mais pour vous répondre, Géraldine Mühlmann...
Je ne dis pas qu'il n'est pas rigoureux. Je dis aussi que c'est le penseur, par exemple, du regret, du remords,
bien sûr,
assommant, qui hante la conscience en permanence.
Bien sûr, c'est l'irréversible humain.
Il n'y a de regret et de remords que si on n'a pas été exactement à la hauteur de ce qui était attendu.
L'irréversible, l'irrévocable sont... Parce qu'il a commencé par écrire, par écrire des livres sur la conscience, où il a bien parlé du regret, de l'irrévocable, la différence entre l'irréversible et l'irrévocable. Le regret voudrait revenir en arrière et le remords voudrait supprimer. Alors pour en revenir à la question qui est plus de gauche, il était entouré pendant la guerre, effectivement, à mon avis, de résistants de tous bords. Et je sais qu'il... Il diffusait des tracts pour le MOI, qui était pourtant
la MOI, FTP.
Il faisait partie, il était dans cette bibliothèque de Silvio Trentin, qui avait été ce grand résistant italien réfugié en France. Et là, il œuvrait avec, dans la résistance des mots, comme vous l'avez si bien dit, sans différence entre gauche, droite, comme on dirait, quand il s'agit de se battre, il n'y a pas de différence, on est tous unis pour la même cause. Et c'est d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il était attaché sûrement à cette période de la guerre, même si elle a été dramatique, c'est parce qu'il y avait cette forme de fraternité, pour employer ce mot qui n'est plus très à la mode, qui existait, où tous ensemble, on œuvrait dans le même sens. Il n'était pas question de dire, toi tu viens de tel milieu ou toi d'un autre. Le même objectif était de se battre et de gagner la guerre et de s'en sortir pour certains. Et il y a eu aussi une grande... Zankelevitch a bénéficié aussi d'un grand soutien moral par l'Institut catholique de Toulouse avec Monseigneur Bruno de Solages, qui était un de ses grands amis, et qui, au moment où on l'a destitué, il n'avait plus le droit, en fin décembre 41, d'enseigner, puisque à cause des lois contre les étrangers, est allé... frappé à toutes les portes en disant, il n'y avait pas que Zankelevitch, il y avait Meyerson, il y en avait plusieurs, voilà ce qu'on fait aujourd'hui à ses professeurs, je vous engage à protester avec moi. Et Monseigneur il a enseigné d'ailleurs un peu à l'Institut catholique, très peu parce qu'il n'avait pas le droit, mais beaucoup dans les cafés pendant la guerre. Mais je veux dire par là qu'il y avait cette espèce d'immense... il a été quand même entouré dans ce drame d'une immense bonté de ceux qui, n'avait qu'un objectif, et l'objectif était commun.
Entendu. Mais alors justement, s'il y a eu une petite hésitation pendant la guerre, avec cette étonnante tonalité marxiste qu'on ne lui connaissait pas dans certains textes, cette proximité des communistes, eh bien, il y a autre chose qui doit nous faire réfléchir. C'est une lettre que vous citez, François Schwab, de Léon Brunswick, en 1944. Donc Brunswick, il va mourir en 44. Bergson est mort en 41. Ce sont les deux grands maîtres de toute cette génération. Mais l'un, ils sont tous les deux idéalistes, comme on dit. Pas marxiste, pas matérialiste, mais Brunswick rationnel. Est le plus rationaliste des deux et le plus critique peut-être de choses irrationalistes. Et précisément, Brunswick lui dit, peut-être n'avons-nous pas assez aimer Descartes. Donc ça, c'est Jean Kelevitch qui répond, qui dit à un moment donné que Brunswick avait raison, je cite, contre nous, nous les Bergsoniens, et ce qui est arrivé, c'est-à-dire peut-être un irrationalisme débridé, avec des idéaux romantiques dévoyés dans la folie nazie. Ce qui est arrivé par notre faute à nous, qui avons joué avec des idées dangereuses, peut-être n'ai-je pas assez aimé Descartes. Je vous laisse réagir, ce sera notre dernier échange. Emmanuel Kessler.
Finalement, c'est marrant parce que je pensais à Descartes il y a un instant, qui au fond nous disait que même quand on n'est pas sûr de la morale définitive, il faut adopter quelques principes par provision, et en tout cas ne jamais être irrésolu, et toujours agir en fonction de quelques idées qu'on a. Et ça me paraissait finalement, Jean Kelevitch, de ce point de vue, me paraissait être assez héritier de ce principe cartésien qui est de ne pas rester perdu dans la forêt, mais d'essayer d'aller quelque part, et qu'on arriverait toujours mieux que si on errait en permanence, même si on tâtonnait, non pas dans sa pensée, mais dans ses objections et dans son but. Donc,
c'est intéressant cette histoire de l'irrationalisme qui aurait peut-être trop séduit ceux qui étaient les plus proches de Bergson. Et il fait une autocritique là, Jean Kelevitch, en 44. Un hymne à la raison étonnant. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, je vais interroger celui qui a peut-être le moins parlé, Pierre Alban.
Parce qu'en plus, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de l'irrationalisme chez Bergson, bien au contraire.
Voilà. Non, il n'y a sans doute pas d'irrationalisme chez Bergson, mais par contre, on entend effectivement le remords de Jean Kelevitch ici. Jean Kelevitch a beaucoup écrit sur les romantiques. Lorsqu'il était à Prague, de 1927 à 1932, il a beaucoup travaillé sur les auteurs romantiques. D'ailleurs, il a publié un article sur le Nocturne.
Il
a fait sa thèse sur Schelling.
Romantique allemand.
Il a consacré l'un de ses premiers livres en 1936 à l'ironie, qui fait la part belle à des auteurs comme Schlegel, comme Tieck, comme Solger. Et donc, ce qu'on entend en fait dans ce texte, je regrette donc de ne pas avoir été suffisamment cartésien, c'est le fait peut-être d'avoir investi des pensées qui ensuite se sont retournées contre les propres idéaux de Jean Kelevitch pendant la guerre. Et donc là, il y a une forme de reconnaissance, non pas de dette, mais peut-être d'une erreur personnelle qui ensuite se manifestera d'une manière assez lourde, parce qu'il y a un choix qui est opéré par Jean Kelevitch, qui est de ne plus citer les auteurs allemands par la suite dans son œuvre, quoique Schelling trouve encore à être cité, et puis, alors même s'il n'est pas allemand, Liszt continuera à être un amour pour lui de musicien.
Et vivre, c'est aussi reconnaître ses erreurs, donc heureusement que dans une période aussi tragique, on est capable de dire qu'on s'est trompé.
C'est pas une erreur, enfin, il y avait une erreur peut-être, mais c'est une évolution. Le jeune Jean Kelevitch, entre ces années à l'école normale et la guerre, était vitaliste. Dans le sillage de Bergson. Il a écrit sa thèse sur Schelling, ses livres sur la conscience et la guerre. Et sa pensée n'était pas une pensée de l'action agissante, disons les choses comme ça, avant-guerre. Et ses livres sont effectivement plutôt des livres où la conscience a la part belle et l'homme. Et puis la guerre arrive et c'est ça, la grande coupure de la guerre dans son œuvre, c'est l'infléchissement de sa réflexion en une réflexion de l'action et de la pensée agissante. C'est la guerre qui a révélé. Et il écrit le traité des vertus pendant la guerre. Et il le termine après la guerre et il a le temps de modifier tout ça et de montrer que c'est bien beau de parler de la vie et des aspirations morales, mais s'il n'y a pas le courage de l'action et le courage de ceux qui font bouger les choses, eh bien c'est la mort qui prend le dessus. Et c'est ça, c'est l'évolution du jeune philosophe. Et dans les lettres à Brunswick, qui avait été son maître, eh bien, c'est bien cela que l'on revoit, parce que c'est Brunswick qui lui dit à un moment, quand il publie le Nocturne, pourquoi publier encore un livre qui a trait au romantisme allemand, enfin, au romantisme ou à ces choses-là. Et là, Jean Kelevitch répond à son maître qu'il aimait beaucoup, mais dont il n'était pas du tout de la même mouvance rationaliste que lui. Il lui répond, je n'ai pas assez aimé Descartes. Et là, l'inflexion, le changement se fait. Et comme par hasard, après la guerre, il écrit Philosophie première, Le Pardon, des livres dans lesquels sa pensée,
explique, montre et devient, comment dirais-je, ce qu'on connaît, c'est le Jean Kélévitch que l'on connaît, c'est-à-dire que l'homme doit avoir en vue la belle action, la bonne action, et que le courage doit être, doit présider à tout cela. Mais c'est un tournant. Et c'est tout à fait vrai qu'avant-guerre, il était...
Je suis vraiment navrée, nous n'aurons pas le temps de parler du pardon. Nous avons dit aussi d'autres choses, des choses qui ne sont pas souvent dites sur Jean Kélévitch. Je voudrais juste renvoyer toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par le parcours de Jean Kélévitch, justement au documentaire paru sur votre chaîne, la chaîne que vous présidez, Emmanuel Kessler. Jean Kélévitch, ce documentaire met en scène une chose assez extraordinaire à un moment donné. Il disait, je ne peux pas pardonner aux Allemands. D'abord, on n'a qu'à nous demander pardon. Et après l'avoir dit, il a reçu une lettre d'un jeune homme allemand, Vierd Raveling, qui n'a tué personne, qui n'a dénoncé personne, qui est de la génération d'après. Mais ce qui est très beau dans le documentaire, c'est qu'on l'a retrouvé, ce Vierd Raveling.
Et il témoigne.
Il lit sa propre lettre, etc. Donc ça, c'est un moment extrêmement émouvant. Et émouvant aussi, on le sait, pour Jean Kélévitch. Voici maintenant, après vous avoir remercié tous les trois très chaleureusement, la chronique de Frédéric Worm, qui cette semaine s'intéresse au retour au texte. Voici le pourquoi du comment.
Comment les textes expliquent-ils l'histoire ? On dit souvent qu'il faut expliquer les textes, et c'est vrai que l'explication de texte est un exercice scolaire qui a eu en France et qui, j'espère, garde et gardera son heure de gloire, c'est-à-dire la discipline qui consiste à prendre un ensemble de phrases comme un tout ayant un sens et à essayer d'expliquer ce sens en quelque sorte pour lui-même. Bien sûr, sans oublier les intentions de celui qui écrit, le travail sur la vérité de ce qui est dit, que vérifie la science de manière objective, mais aussi en examinant la totalité signifiante du texte pour lui-même et ses effets dans l'histoire. De fait, il ne suffit pas d'expliquer les textes. Il faut aussi comprendre que l'histoire des textes explique l'histoire des humains, l'histoire de l'humanité elle-même, et constitue non pas un objet parmi d'autres, mais le cœur des disciplines qu'on met aujourd'hui sous le signe des humanités. On pourrait presque dire que les sciences expliquent le monde et les humanités expliquent l'humanité par les textes, toujours par les textes. Pourquoi ? D'abord parce que les textes sont des faits. Et c'est la dimension historique première. Quand on dit qu'il faut revenir au texte, c'est qu'on veut revenir à des archives, à des documents qui existent. Ce sont donc aussi des faits. Et on peut même dire que la trace d'un diplodocus, d'un dinosaure, est, fait partie aussi du texte d'une histoire qu'on est en train d'écrire. Ce sont des signes qu'on rattache à d'autres par du sens. Ne revenons pas à l'idée de texte comme métaphore générale du sens. Mais malgré tout, le texte, en tout cas, fait partie des faits. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, par exemple, je ne sais pas au moment de l'affaire Dreyfus, revenez au texte, revenez au document, revenons à l'histoire. D'un autre côté, le texte, c'est le sens, c'est la cohérence d'une interprétation qui définit aussi ce qu'est un texte. Il y a plusieurs interprétations qui vont peut-être se disputer, mais elles sont obligées d'être cohérentes autour de la cohérence d'un texte. Le conflit des interprétations dont parlait Paul Ricoeur de manière si profonde a ses règles. Il a ce qu'on appelle les règles de l'herméneutique. L'herméneutique, c'est la science de l'interprétation des textes. Elle n'est pas entièrement relative, bien entendu. Elle n'est pas non plus fondée seulement sur la vérité objective de ce que dit le texte, qu'il faut étudier par ailleurs, mais elle est une science de l'interprétation du sens donné par les humains à cet ensemble de signes et de phrases qu'on appelle un texte. Et il y a, de fait, un conflit des interprétations. Il n'y a pas de grand texte qui n'ait donné lieu à un conflit d'interprétation. Et c'est peut-être ce qui le définit comme une ressource vive aussi pour aller plus loin. Les grands textes sont inépuisables. Ils nous donnent encore des ressources pour l'avenir. Et enfin, il y a justement cette histoire des textes. Et l'histoire, ce n'est pas rien. L'histoire de grands textes avec leur transmission, leur traduction, leur circulation, avec aussi les contresens qui ont engendré parfois des guerres, avec des métaphores qui ont circulé, qui ont été extraites des textes. L'histoire des textes, c'est la science des humanités, c'est la science de l'humanité. Il ne faut pas s'y perdre comme dans une bibliothèque infinie, borgésienne, kafkaïenne, qui peut nous faire peur, mais il ne faut pas non plus hésiter à y entrer, à ouvrir les textes ou les livres comme ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des boîtes noires. Non, ce ne sont pas des boîtes noires, c'est la matière, au fond, sous nos yeux, de l'humanité, qui se transforme avec les archives numériques et l'intelligence artificielle, mais qui reste pour le meilleur et pour le pire, ce dans quoi s'écrit, s'inscrit aussi dans le monde, l'histoire des êtres humains.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Paul Guig. Merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie et notamment à Anna Fulpin qui a particulièrement préparé cette émission. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.